Le bal des poètes. Pour ce 13e épisode du bal des poètes, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois les auteurs Michel Garneau, Jean-Luc Jolivet, Maxime Galin et un tout nouveau, un petit dernier venu, Mistapol. À travers les mots de ces auteurs, on va faire un petit voyage qui passe de l'ombre au soleil, de la pluie au clair de lune. Alors merci d'être là encore une fois pour le bal des poètes. J'ai envie d'ouvrir cette émission avec un texte de Michel Garneau, qui a su, dans un recueil pour travailler ensemble, a donné un point de vue sur ce qu'était un artiste pour lui. Alors voici de Michel Garneau, en introduction pour ce bal, sans titre. L'artiste est Sapiens Faber et Ludens. Il sait des affaires, il fait des affaires, il joue avec toutes ses affaires. L'artiste est un travailleur culturel. Quand il se prend pour un saint martyr, il se ridiculise. Si je parle du bonheur, c'est que je n'aime pas la facilité. C'est tellement facile souffrir exquisement. Et la complaisance, c'est tellement bandant. N'aimons pas les grosses anecdotes tristes et les gros effets tragiques. Nous ne sommes pas là pour nous faire de gros effets. Nous sommes là pour témoigner humainement de l'humain. Voilà ce qu'écrivait Michel Garneau il y a quelques années déjà, 1978. Voyons voir si ça se concrétise tout ça, presque 45 ans après. À tout de suite. Je vais vous lire un texte de Michel Garneau tiré de son recueil « Le sacrilège » publié par Loi de Cravant. Je commence à la lettre T. Iliette s'est approchée de moi. C'est la plus belle fille de ma vie. Je dis son nom dans mon oreiller. Iliette me regarde. Elle a une coquetterie dans l'œil. Ils sont pas tout à fait droits, ses yeux, et c'est tellement beau, ses yeux, que ça me donne envie de pleurer. Ses cheveux sont très noirs. Mais ce qui me rend malade, c'est que sur son front, juste au commencement des cheveux, il y a une lueur bleue. J'ai déjà vu un cheval avec une tache blanche. Elle, c'est encore plus beau. C'est une lueur bleue. Elle a la peau tellement blanche qu'on voit partout la lueur de ses veines. On la voit à ses poignets, on la voit derrière ses genoux et à son cou dans le petit poil. Elle me regarde. Elle s'approche tout près. Si près que je la vois mal. Elle sort ma chemise de mes culottes et elle glisse ses deux mains sous ma chemise. Ses deux mains tièdes s'appuient sur ma poitrine. Et j'ai peur de tomber. Et elle pose ses lèvres sur mes lèvres. Et elles sont fraîches comme l'autre côté de mon oreiller. C'est un vers d'un poème d'un ami de mon frère qui s'appelle Serge. L'autre jour, Sylvain m'a dit, tiens, écoute la belle image. Ta joue est fraîche comme l'autre côté de mon oreiller. C'est pas beau, ça. « Hey, c'est bon. Ta joue est fraîche comme l'autre côté de mon oreiller. Ses lèvres sur mes lèvres sont fraîches comme l'autre côté de mon oreiller. Et j'ai le vertige. Iliette rit. Et jamais une musique n'a été si belle. Jamais une musique m'a fait si mal. Elle s'éloigne sans rien dire et j'ai peur de mourir de chagrin parce que je sais que c'est la première fois et que je sais que c'est la dernière fois. Merci Michel Garneau. À tout de suite. Voici de Jean-Luc Jolivet, un texte qui, justement, est un texte pour moi d'artiste ou d'artisan, qui se prend à la fois ni trop au sérieux, ni trop à la légère, mais qui parle de bonheur, de moments de bonheur. Ce grand luxe. La table est desservie. La vaisselle se douche dans le lave-vaisselle. Le linge virevolte et se réchauffe dans la sécheuse. Le téléviseur, l'ordinateur et le cellulaire sont éteints. Les lumières sont tamisées. Le chien ronfle déjà sur son coussin. La maisonnée est assoupie et se laisse dériver lentement vers la nuit qui approche. Un silence enveloppant et apaisant reprend ses droits et flotte dans l'air. C'est l'heure pour moi de monter à l'étage et de m'installer confortablement dans ma salle de lecture et d'écriture. Lieu béni. Aussitôt assis dans mon divan, la tension accumulée durant la journée baisse automatiquement d'un cran. Je ferme les persiennes, j'allume la lumière sous l'abat-jour, je nettoie mes lunettes et je reprends ma lecture là où je l'avais laissée, à regret, pour m'occuper de choses, disons, plus valorisé socialement. Je retire mon costume de salarié et je plonge corps et âme dans le monde fascinant et foisonnant de la littérature. Plus personne n'attend quoi que ce soit de moi. Le souffle de la liberté me chatouille les narines et pénètre dans mes poumons. Je respire déjà mieux. Je me sens moi-même. Je lis quelques pages et je m'arrête. Je réfléchis à ce que je viens de lire, je ferme les yeux. Je replonge encore pour lire quelques lignes, je savoure ce que me raconte cet auteur contemporain en ce moment de pure félicité. Je suis entièrement présent et dédié à ce que je fais. Je poursuis ma lecture sur plusieurs pages. Je m'arrête à nouveau, je ferme le livre et le dépose sur la petite table blanche et ronde qui est à ma droite. Je me laisse porter par mes pensées. Je me lève et vais chercher dans la bibliothèque un joyau de l'œuvre de l'immense Charles. Je relis pour une centième fois ce poème qui me touche toujours autant et je deviens subitement un spectateur silencieux et impuissant face au mauvais sort que les hommes d'équipage réservent aux albatros, ces rois de l'azur maladroits et honteux qui ont le malheur de se retrouver sur le pont de ce navire glissant sur les gouffres amers. J'en retiens une leçon qui sert à me remettre rapidement à ma place lorsque je suis sur le point de me moquer méchamment de quelqu'un. Pour m'éloigner de la mer, des préjugés et de la méchanceté, je tends l'oreille à ce que la merveilleuse Joséphine a à me dire. Elle est généreuse, cette grande dame. Elle me permet d'avoir accès à elle et à son bagage de vie à travers le sublime bâton à message. Elle me dit entre autres, que nous sommes rares, nous sommes riches, comme la terre, nous rêvons. Elle ne le sait pas, quoiqu'elle le devine sûrement, mais elle me nourrit durant plusieurs jours grâce à ses mots. Elle me comprend lorsqu'elle me dit que mon rêve ressemble à une paix qui se bat pour sa tranquillité. Mon rêve ressemble à une paix qui se bat pour sa tranquillité. Maintenant, afin de m'en mettre plein la vue, je n'ai qu'à étendre mon bras vers l'étagère du bas et ouvrir à la page 350 du tome 2 de l'œuvre complète du génie du Pays-Bas pour me retrouver dans un champ de harpe. Vincent m'invite alors à prendre tout mon temps et à contempler les gestes rapides et méthodiques du semeur au soleil couchant. Ensuite, il me suggère de regarder la vieille tour dans les champs de Nounen, à la page 45 du tome 1. Je reste scotché de très longues minutes sur ces images sublimes. Je ne sais pas si ce peintre avait conscience, en peignant ses tableaux, que ceux-ci traverseraient le temps et qu'ils permettraient à un Québécois de mettre de la couleur sur ces trop longs jours gris de mars, quelques 130 années plus tard. Cette question fascinante restera à jamais sans réponse. Mes yeux se font un peu plus lourds, mais je ne veux pas me résoudre à clore cette soirée de lecture tout de suite. Avant d'aller au lit, j'ouvre le grand fanal de ce natif de l'Ozon, de ce poète que j'aime beaucoup, qui célèbre la vie, les oiseaux, notre majestueux fleuve, et qui est à l'écoute des paroles qui marchent dans la nuit. Encore une fois, sa bienveillance m'aide bon conseil. Afin d'avoir une vie large, ce dernier m'invite à me donner par jour 5 minutes de poésie. Je ne saurai jamais assez le remercier. On ne sait pas où peuvent mener nos lectures, mais celles-ci m'ont clairement aidé à écrire ce texte. Et elles m'ont permis de voyager dans le temps. Voyez, je suis passé du 19e siècle au 21e siècle, dans le temps de le dire, et pour pas cher pour ça. En tout cas, ce qui est heureux, c'est que je peux me payer ce grand luxe régulièrement sans pour autant risquer de me retrouver sur la paille. Merci, Jean-Luc Jolivet. À tout de suite. Dans l'écriture, parfois les contrastes sont plus qu'intéressants, révélateurs. Ils nous parlent de l'humain avec les hauts, les bas. Alors voici un texte proposé par Maxime Galland, sans titre. Je dis que la douleur est forte. La chair, les os, les ongles, la peau, ça nous terrifie. Le bavardage traque, crie, débite, l'air manque. On nous empaille comme des curiosités et nous gardons la pose. Cou dressé, bouche ouverte, les notes sont tendues, droites et claires. Ça s'envole à l'orée du corps. Qu'attendons-nous? Nous avons le temps, la chaleur. Nous avons la joie du malheur plein et sonore. Qu'attendons-nous pour hurler comme des bêtes? Merci Maxime Galland. À tout de suite. Encore les contrastes. C'est drôle, hein? On va finir cette émission du 13e bal des poètes avec un autre texte qui parle de tempête et de lever de soleil. Je pense enfin. Voici « Château de paille », écrit par Mista Paul. Passez les défaites au fer de vos mots doux. Oubliez des heures extra de rendez-vous. Hantez des vides, nuits sans lune, qui m'assaillent. Fanez les châteaux de paille. Envolez le vent des parfums andalous. Et marchez sans but, autre que me rendre jusqu'à vous. Tout l'or du monde, tout l'or de rien sans vous. J'ai laissé là, sur le quai, mes bagages à regret. Autant de beaux jours, autant de mauvais. Je vous porte encore au cœur de mon être. Sans vous, j'avoue, la vie va sans faire de bruit. Presque abattu, je rêve à vous renaître. Vous, ma rive et ma folie, sans qui le noir s'entête. Fanez les châteaux de paille, envolez le vent des parfums andalous, et marchez sans but autre que me rendre jusqu'à vous. Fanez les châteaux de paille, brûlez les châteaux de paille, et marchez sans but autre que me rendre près de vous. Et bien voilà, déjà la fin de ce 13e bal des poètes. Le bal des poètes est une production des productions de Londres, exclusivement pour la plateforme Onde à part. Au microphone, Edgar Bory, choix des œuvres, musique d'accompagnement. Au mixage, Louis Morneau. Nous recevions aujourd'hui Michel Garneau, Maxime Galland, Jean-Luc Jolivet et Mista Paul. Donc, merci d'avoir été là, à l'écoute. C'est un rendez-vous, bientôt, pour le 14e épisode du Bal des Poètes.